Jean de Montalembert, vous êtes prêtre et vous êtes aussi descendant d'un homme illustre, Charles de Montalembert. On dit de lui qu'il a mené un combat difficile entre Dieu et la liberté. Vous pouvez nous en parler ?
C'était le grand-père de ma grand-mère et nous passions nos vacances dans le château qu'il avait acquis lui-même. Nous étions élevés dans ce château par ma grand-mère et qui nous apprenait beaucoup de son grand-père. Et j'ai appris à servir la messe dans le petit oratoire qu'il avait fait dans ce château. Il a beaucoup compté dans mon enfance et puis ensuite dans ma vie de prêtre.
Comment est-ce qu'il a marqué le 19e siècle ?
C'était d'abord un homme très brillant intellectuellement. Il était très précoce dans sa réflexion et tout jeune homme, il s'est engagé avec l'Amenée et l'Accordaire dans l'aventure de l'Avenir. L'Avenir, c'est un journal et qui essayait de réconcilier les catholiques avec la société nouvelle sortie de la Révolution française dans ce 19e siècle très bouleversé dans le fond par cette grand moment difficile de l'histoire de France mais qui avait eu son impact très fort sur toute l'Europe à cause des guerres napoléoniennes. Montalembert a essayé avec ses compagnons de se dire les catholiques ont un rôle à jouer dans la société nouvelle. Mais cette société nouvelle, elle n'était pas très comprise par le clergé, par l'épiscopat. Et alors l'aventure de l'avenir s'est terminée très tôt, après un voyage entrepris par l'Amenée, l'Accordaire et Montalembert. Montalembert avait 22 ans. Et puis l'Amenée était un prêtre très passionné, très ardent et qui avait été un grand soutien de la papauté. Et il voulait avoir l'approbation du pape, qu'il n'a pas eu et qu'il l'a beaucoup déçu et qu'il l'a entraîné petit à petit à s'éloigner de l'Église. Et Montalembert est resté à côté de ce prêtre beaucoup plus âgé que lui pour essayer de le soutenir et pour essayer de le retenir dans l'Église. Mais ça a été pour ce jeune homme très fougueux, très intelligent, très ardent, ça a été une première épreuve très difficile. Alors qu'il s'était engagé au service de l'Église, comme laïc, comme homme de plume, comme homme politique tout jeune, de voir que l'Église désavouait son combat. Et son combat, c'était le combat de la liberté, les libertés publiques, liberté de la presse, liberté d'enseignement. Alors ce combat, pour lui, va poursuivre jusqu'à la fameuse loi Falloux, qui va donner la liberté d'enseignement.
Est-ce qu'il est à l'origine de cette loi
Falloux ? Il est 100% à l'origine. Il est même 100% derrière tout du long. C'est un combat de 20 ans pour lui. Et quand, après la révolution de 48, quand Louis-Napoléon devient président de la République, on pense que son ministre de l'Éducation sera Montalembert. Mais je crois qu'il avait trop défendu les jésuites pour que ça plaise vraiment dans ces milieux tout de même un peu anticléricaux de la France du 19e siècle. Et donc on va nommer quelqu'un de plus souple, de moins engagé que lui, Monsieur de Falloux. On va retenir la loi comme la loi Falloux, mais en fait on aurait pu l'appeler la loi Montalembert parce que c'était vraiment lui qui l'avait menée et qui avait accepter d'ailleurs une certaine négociation avec le gouvernement. C'était pas la loi parfaite de liberté de l'enseignement, mais c'était déjà un sacré pas en avant. Et cette loi, d'une certaine façon, avec les transformations qu'elle a subies en France à travers le temps, elle reste toujours en vigueur. Et quand, en 1982, on a voulu revenir à un monopole de l'État, parce que la grande question de Montalembert, c'est que dans le domaine de l'enseignement, il ne faut pas un monopole de l'État, parce qu'on risque alors un despotisme, parce qu'il était assez contre toutes ces formes de centralisme excessif qui généraient un espèce de despotisme. Il voulait une liberté de l'enseignement pour deux raisons. C'est que d'abord pour que l'Église ait un champ pour pouvoir enseigner ce qu'elle pensait juste d'enseigner à ses élèves. Et d'autre part, pour que les parents aient une responsabilité dans l'enseignement. Il a beaucoup insisté sur le rôle des laïcs catholiques qui devaient défendre sur la place publique leurs droits. À l'époque, les évêques n'ont pas très bien compris. Et les évêques disaient, mais c'est pas à vous, monsieur de Montalembert, un simple laïc, de mobiliser les catholiques en défense de l'enseignement. C'est notre problème, notre action en relation avec le gouvernement, etc. Il a répliqué, et on voit ça dans ses carnets aussi, l'importance des laïcs à prendre place dans la société au nom de leur foi catholique. Et ça, c'est une idée très intéressante, je trouve.
Très novatrice
oui,
aussi pour l'époque.
Très novatrice pour l'époque. Et Montalembert sera pas le seul, mais c'est un de ses premiers grands laïcs du 19e siècle, avec Ozanam, avec d'autres, après Albert Demain, et qui vont marquer le catholicisme français à la suite de Montalembert, parce que lui, comme laïc, pensait qu'il devait s'engager au service de l'Église.
Comment Comment est-ce que vous vivez cette descendance ?
Vous me permettez de lire un petit passage d'un de ces fameux discours de Malines qu'il a fait en 1863 sur l'Église libre dans un État libre, une formule qui a été assez contestée. L'Église libre dans un État libre. Il dit ceci, « Il faut donc ici comme partout savoir comprendre la nouveauté des temps, non la saluer d'un sot et servile enthousiasme, mais la comprendre, l'accepter ou au moins s'y résigner de bonne foi, en tout ce qui n'est pas contraire à la conscience du chrétien. Concilier les traditions de l'Église avec les aspirations de la société moderne, en cherchant et pour l'une et pour l'autre une fécondité nouvelle dans la liberté, c'est une tâche admirable. » Alors, une telle phrase, moi c'est comme ça que je vis mon ministère.
C'est toujours actuel.
C'est toujours actuel et je pense à notre pape Benoît XVI qui vient de créer un nouveau dicaster sur la nouvelle évangélisation. Ça pourrait être une piste de recherche de ce dicaster, de chercher cette fécondité réciproque. Fécondité réciproque, donc fécondité pour l'Église et fécondité pour le monde du rapport de l'Évangile au monde. Moi, je sais que j'aime vivre mon ministère de cette façon, c'est-à-dire être bien fier et certain de mon attachement à Jésus, de le fait que le message évangélique est un message fantastique pour notre monde, mais en même temps de recevoir du monde auquel je m'adresse ou des personnes auxquelles je m'adresse, recevoir de leur part un certain nombre de petites lumières très intéressantes aussi. Cette fécondité réciproque sur laquelle insistait Montalembert, je ne sais pas comment ce qu'elle m'est venue, mais en tout cas, elle est bien enracinée au fond de moi.
Une fécondité que vous vivez, tout simplement. Vous êtes maintenant, depuis quelques années, à Buenos Aires, dans une communauté catholique, francophone.
Voilà.
Et qu'est-ce que vous y faites ?
Une des raisons pour laquelle j'ai accepté ce poste, c'est que je savais que j'aurais moins d'occupations que dans mon diocèse d'origine et que j'aurais le temps d'écrire. J'avais assez envie, depuis un certain temps, d'écrire un certain nombre de choses. J'écris deux livres. Alors, le premier, c'est plutôt pour les adultes. On l'a appelé avec l'éditeur. Il est plutôt intelligent de croire.
Alors, c'est très intéressant comme titre. Il est plutôt intelligent de croire.
J'avais été très frappé lors de l'anniversaire de la naissance du Christ, le jubilé. De l'an 2000, on m'avait demandé plusieurs fois d'intervenir dans des établissements publics catholiques sur le thème 2000 ans de christianisme. Et alors, je commençais toujours par un petit test. Alors, c'était des élèves de seconde à terminale. Et je leur disais, dites-moi, qu'est-ce que vous évoque 2000 ans de christianisme ? Et alors, je leur disais, moi, je note votre trio gagnant. Alors, tâchez d'être intelligent parce que j'aimerais pas que ça corresponde. Naturellement, ça correspondait. C'est le 2000 ans de christianisme, c'est les croisades, l'inquisition et les guerres de religion. Et alors je me suis dit, même dans des établissements scolaires catholiques, ce qui traîne chez les Français, c'est ça. Alors je me suis dit, il y a un manque d'intelligence là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas compris dans notre système éducatif français, qui fait que le christianisme n'est pas compris dans son intelligence. Il y a quelque chose de très profondément intelligent dans toute l'aventure du christianisme. Alors c'était un petit peu cela que je voulais faire sortir, qu'il était plutôt intelligent de croire. Et moi, je voulais beaucoup insister là-dessus, même si j'insiste beaucoup qu'il faut comprendre avec intelligence le donné de la foi. Finalement, la relation qui nous est demandée avec le Christ, c'est une relation qui prend tout l'être et qui est une relation de l'ordre de la relation amoureuse, la relation pas affective au sens uniquement sensible, mais la relation aimante, qui est pour aimer, il faut le cœur et l'intelligence et le corps. Il faut quelque chose de l'ensemble.
Pour terminer, Jean de Montalembert, vous êtes descendant de cet homme fameux, Charles de Montalembert. Vous êtes maintenant à Buenos Aires. Vous écrivez des livres où vous voulez justement redonner, transmettre le meilleur du christianisme. Est-ce qu'il y aurait une parole ou une parabole qui est pour vous un peu le socle de tout ce que vous essayez de vivre au jour le jour ?
C'est la rencontre du Christ avec le centurion romain. À la fin, Jésus, je n'ai pas vu foi plus grande en Israël. Et ce centurion romain, rien ne le dit, mais on suppose naturellement, n'était pas de la religion juive. De la part du Christ d'avoir dit cette chose tellement audacieuse que ses compatriotes ou ses co-religionnaires n'ont pas dû comprendre, je n'ai pas vu foi plus grande en Israël. Ça, c'est tout de même quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Et la deuxième, c'est la parabole de la brebis perdue. Parce que je crois que c'est surtout dans saint Matthieu où c'est marqué que Jésus laissa, non dans la bergerie, mais dans la montagne, les 99. Là où il y a les loups, là où elles peuvent se disperser, là où elles peuvent se perdre. Et il dit à ses disciples, qu'est-ce qui vous en semble ? Normalement, la réponse logique aurait dû être, il laisse perdre cet idiot de petite brebis qui s'est égaré, et il reste bien avec les 100 pour que les loups ne les attaquent pas et qu'elles ne soient pas dispersées. Eh bien non, et Dieu y va à la recherche de cette brebis perdue. Alors, et le centurion et la brebis perdue, ce sont deux, une rencontre du Christ et cette parabole sont des choses qui m'habitent beaucoup et qui guident beaucoup mon ministère.